Voilà, nous lisons dans Hébreux au chapitre 11. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. Donc on s'arrête là. Donc pour rappeler une fois de plus la définition de la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire qu'on croit que Dieu va réaliser les choses, prophétiser les choses à venir. Et c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire on croit que ce que Dieu est, il l'est vraiment même s'il est invisible, même si on ne voit pas. Ce que Dieu nous dit pour aujourd'hui, cela est la vérité. Donc c'est ça qui explique la foi. Et il nous est dit que c'est la foi qui a fait que les anciens ont reçu un témoignage favorable de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir un témoignage favorable? C'est-à-dire Dieu les a considérés comme justes, Dieu les a considérés bons parce qu'ils ont eu la foi. Parce que l'objectif de tout chrétien, c'est quoi? C'est que Dieu le considère comme juste. Dieu le considère comme bon. Et il nous est dit que c'est à cause de la foi en Dieu que ces gens-là ont été considérés justes. Et donc la foi, c'est le fait de croire que Dieu est ce qu'il est et Dieu fera ce qu'il a dit. C'est en quelque sorte ça la foi. Et il y a bien sûr une conséquence, des conséquences. On ne peut pas croire que Dieu est ce qu'il est et en même temps ne pas utiliser cette connaissance-là. Parce que le Seigneur dit dans Jean, je crois au chapitre 14, il dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements ». Garder, ça veut dire les avoir pour les utiliser. C'est ça l'idée qui est dans le mot garder. Quand on garde des objets, on garde de la nourriture, c'est pour manger, c'est pour utiliser. Donc celui qui garde les commandements du Seigneur, il les garde dans le but de les utiliser. Et c'est pourquoi, quand on parle de la foi, il ne s'agit pas juste de reconnaître que ce qui est dit est vrai, mais il s'agit d'utiliser ça. Parce que je ne peux pas reconnaître qu'un chèque est vrai si je ne l'utilise pas. Donc on te donne un chèque, tu dis que c'est un bon chèque, mais alors que tu as faim, tu as des besoins financiers, mais tu ne déposes pas le chèque à la banque. Donc ou tu as foi ou tu n'as pas foi. Si tu as foi, tu vas le déposer pour prendre de l'argent, pour avoir de l'argent et utiliser. Et c'est ça la foi. On ne peut pas dire qu'on a la foi, mais on ne l'utilise pas. C'est juste une connaissance intellectuelle. C'est ce que l'apôtre Jacques dit lorsqu'il explique aux gens qui utilisaient l'enseignement de Paul en tordant cet enseignement en disant « Oui, bon, moi j'aime Dieu, j'ai la foi. » Mais qui avait un comportement de païen, qui avait un comportement contraire à cette connaissance. L'apôtre Paul dit, mais montre-moi, l'apôtre Jacques dit, montre-moi, toi tu as une foi, il n'y a pas d'œuvre, mais moi je te montrerai ma foi et les œuvres. Donc Jacques veut dire par là que, d'accord, ça commence par la reconnaissance, ça commence par le fait de reconnaître que Dieu est tout-puissant, il est ce qu'il dit qu'il est, il fera ce qu'il dit, c'est ce qu'il promet. Mais ça finit par l'application de ça. Donc quelqu'un ne peut pas dire que j'aime le Seigneur, je veux servir Dieu, mais il ne le fait pas. Donc on se souvient de la fameuse parabole des deux fils, non ? Il y a le père qui envoie le premier fils. Le premier fils dit, je ne veux pas. Je ne veux pas faire ce que tu me demandes de faire. Et finalement, ce premier fils-là se repent et va faire le travail. Ou c'est l'inverse, hein, premier ou deux, donc il y a un ordre. Et il demande à l'autre fils d'aller travailler. L'autre dit, oui, je vais y aller, père. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y va jamais. Et Jésus pose la question, mais lequel des deux fils a obéi au père ? C'est le fils qui a dit non d'abord, ensuite il est parti quand même. Ce n'est pas celui qui a dit oui de la bouche, mais il n'a rien fait du tout. Donc c'est ce que Jacques veut nous enseigner. La foi sans les œuvres n'est pas la vraie foi, parce que c'est contradictoire, parce que la foi produit tellement de choses que ça serait bête d'avoir la foi sans produire les choses que la foi promet ou que la foi, la foi atteste. Donc la foi est forcément, la véritable foi est forcément suivie d'un engagement et c'est forcément suivie d'une fusion avec le plan de Dieu parce qu'on veut vivre le contenu de la foi. C'est clair. Et c'est ce qui fait que les anciens ont été reconnus justes. Donc je me suis limité à l'exemple d'Abel parce que l'exemple d'Abel, c'est un exemple puissant de démonstration de foi, puisque Abel fait le sacrifice, un sacrifice très important, au Dieu invisible, au Dieu dont peut-être il a entendu parler par ses parents, mais il fait un sacrifice important à celui qui ne voit pas. Et Caïn a été raisonnable, prudent, il a sacrifié juste, voilà, pour sacrifier parce qu'il faut faire quelque chose au cas où peut-être Dieu existerait. Mais Abel était tellement sûr de l'existence de Dieu qu'il lui a fait un très grand sacrifice. Donc forcément, la foi produira quelque chose de visible, de concret. Et cela passe par un engagement total. Et lorsque nous lisons Hébreux 12, c'est écrit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Voilà, il nous est dit qu'on a une grande nuée de témoins. Donc des modèles. Donc on a une grande nuée de modèles, des phares, des balises pour nous aider à prendre le bon chemin. C'est cela. Et en quelque sorte, on n'a pas d'excuse parce que le nombre de témoins est très, 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 très grand. C'est pourquoi nous faisons cette étude. Nous voulons lire l'histoire de ces témoins-là et, afin que chacun de nous les prenne en exemple. Maintenant, ce n'est pas des témoins infaillibles. Ils ont eu à faire parfois des erreurs, parfois des bêtises, mais ce n'est pas à cause de leur perfection qu'ils ont été considérés comme justes, qu'ils ont obtenu un témoignage favorable, mais ils ont obtenu un témoignage favorable parce que c'est des gens qui ont cru et qui ont produit le fruit de la foi. Donc ils ne se sont pas limités à dire « je crois », mais ils ont produit le fruit. Donc on a l'exemple d'Abel et Caïn. Donc Abel a produit le fruit de la foi. Puisque Dieu est fidèle, lorsqu'on croit vraiment, on se confie en lui, les fruits sont produits. Donc nous avions déjà cité Abel et autres, on a été quand même un peu long quand on a parlé d'Abel. On a été aussi assez long quand on a parlé d'Abraham. Même si on n'a pas dit tout sur Abraham, Abraham, son histoire est très riche. On a quand même cité des points très importants, mais je cite rapidement deux ou trois points. Il y a, vous connaissez aussi cet épisode où Abraham doit choisir, doit se séparer plutôt de Lot parce qu'il y a un conflit entre les bergers. Mais qu'est-ce que fait Abraham? Abraham demande à Lot de choisir un coin et lui, il prendra Lot. Si Lot part à gauche, lui, il ira à droite. Si Lot part à droite, lui, il ira à gauche. Ça, c'est une démonstration de foi. Abraham savait que son avenir était entre les mains de Dieu. Il n'avait pas besoin de le déterminer lui-même. Il n'avait pas besoin de chercher le bon endroit. Mais il avait besoin de manifester l'amour. Et il a manifesté l'amour. Il a dit à Lot, de toute façon, moi, je suis avec Dieu. Toi, choisis ce qui est bien pour toi. Moi, je prendrai l'autre partie. C'est la foi. Bien-aimé, lorsque Jésus nous demande de ne pas résister aux méchants, mais c'est un acte de foi. Ce n'est pas juste un acte d'amour. Puisque Dieu est aussi juste, dans sa justice, il sanctionne aussi, il punit, il sanctionne aussi les méchants. Et donc quand on nous demande de ne pas résister aux méchants, donc de ne pas répondre au mal par le mal, c'est parce que nous devons avoir foi. Non, on doit non seulement manifester l'amour, mais on doit avoir foi que Dieu se vengera un jour. Donc on n'a pas besoin, nous, de le faire. Donc Dieu est tout puissant pour lui-même se venger un jour. Donc moi, je vais manifester l'amour parce que, comme notre frère David l'a dit, la méchanceté appartient aux méchants. Moi, je ne suis pas un méchant pour faire les mauvaises choses. Donc je vais faire les bonnes choses, que les méchants, eux, fassent les mauvaises choses. Dieu lui-même jugera un jour. Oui.
Pour aller dans le même sens que Abraham, en laissant d'abord Lot choisir, on a vu aussi dans la Bible qu'il y a des fois où ils ont tiré au sort, notamment pour le cas de Matthias aussi. Voilà. Est-ce que le fait de tirer au sort, donc en quelque sorte on met foi que le Seigneur va nous conduire dans le choix qui est le sien, est-ce que ce procédé de tirage au sort, on peut se l'appliquer encore aujourd'hui ? Sans que ça paraisse comme, entre guillemets, le hasard, quoi.
Oui, moi je pense que lorsque dans un procédé on compte sur Dieu, parce qu'il n'y a pas que le tirage au sort, on peut aussi dire, bon, s'il y a un tel signe, s'il y a... Donc en fonction de notre foi en Dieu, on peut, puisqu'on n'a pas entendu sa voix, il n'y a pas de vision, on est dans une position, surtout avec les apôtres, où il y avait plusieurs témoins, bon... peut-être que Dieu pouvait utiliser une personne et les autres dire, mais non, mais on n'est pas sûr que ce que lui dit est vrai. Donc ça pouvait créer des problèmes. Je crois qu'on peut avoir recours au tirage, à ce genre de tirage, en ayant foi que c'est Dieu qui va déterminer. Comme ça, la situation, elle est neutre. Donc le résultat est neutre parce que quand on est souvent, parfois en communauté, on peut se retrouver dans des conflits. Que pour départager, il faut se mettre d'accord sur une façon de choisir. Je pense que c'est possible. Mais je ne dis pas qu'on doit faire de ça un système. Mais c'est possible. Voilà, donc, un autre épisode avec Abraham, où on voit sa grandeur, c'est qu'Abraham a rencontré Melchisédek quand même. Donc, c'est Melchisédek, c'est un homme dont on ne connaît ni l'origine, ni la fin. C'est ce que Paul nous explique. On ne connaît ni l'origine de Melchisédek, ni la fin. Mais son nom est révélateur parce qu'il est roi de Salem. On dit qu'il est roi de Salem. Salem veut dire paix. Et en même temps, Melchisédek, son nom lui-même, veut dire roi de justice. Donc il a les titres de Dieu lui-même, prince de paix, roi de justice, et le titre de Jésus lui-même en quelque sorte. Puisque dans Jérémie 23, on appelle Jésus le germe juste de Dieu. Et on sait aussi que dans la parole, Jésus est appelé le prince de la paix. Et donc ces deux choses-là font d'Abraham quelqu'un de spécial parce qu'il a eu foi en Melchisédek. quelqu'un qui, de nulle part, donc on ne sait pas, on n'a pas de renseignements sur lui. Mais Abraham a eu foi que c'était le messager de Dieu. Abraham venait de remporter une grande victoire et il a donné la dîme à Melchisédek. Et ça, c'est une histoire très importante sur Abraham, parce que beaucoup ne connaissent pas ce détail-là. Donc Melchisédek, il est très important dans la foi chrétienne, parce que Melchisédek est la préfiguration de Jésus. Et le fait qu'Abraham se soit prosterné devant Melchisédek prouve que la sacrificature de Jésus est supérieure à celle de Lévi. Donc c'est ce que Paul utilise comme démonstration dans les livres d'Hébreu pour montrer que Jésus est au-dessus de la loi de l'Ancien Testament, puisque Melchisédek, qui était le prêtre devant qui Abraham s'est humilié, il est la préfiguration de Jésus. Et Abraham, lui, c'est le papa de Lévi, de Moïse, de tout le reste. Donc forcément, Jésus est au-dessus d'eux, est au-dessus de Aaron, au-dessus de Lévi. Et ça, c'est une démonstration importante que les chrétiens doivent connaître dans un échange peut-être avec un juif. C'est important d'expliquer toutes ces choses-là. Et Abraham a vécu, a rencontré Melchisédek. Ça aussi, c'est un épisode important. Oui.
Moi, je voudrais savoir, parce qu'on dit dans Hébreux 5 que Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, justement. Du coup, je ne comprends pas trop, en fait.
Parce que pour moi, du coup, je ne comprends pas trop.
Parce que pour moi, Melchisédek, c'était... Parce qu'on dit, il n'a ni commencement ni fin. Pour moi, c'était Dieu, lui-même.
Ah non, c'est Dieu par conclusion, par déduction plutôt.
Mais il n'a ni commencement ni fin, la Bible dit.
Non, mais on n'a pas donné son commencement, on n'a pas donné sa fin. Donc c'est quand même un être qui s'est manifesté devant Abraham. Donc Abraham lui a donné quand même la dîme. Mais après, le problème n'est pas là qu'il soit Dieu invisible ou visible. Le problème, c'est qu'Abraham, quand Paul fait cette démonstration-là, il veut dire qu'Abraham s'est humilié devant Melchisédek. Donc, Jésus, lui, il est donc sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, parce que lui-même, Jésus, n'a pas commencement de jour ni fin. À la différence des sacrificateurs selon Aaron, qui ont pour papa Aaron. Melchisédek n'avait pas pour papa Aaron. Tous les sacrificateurs ont pour papa Aaron, c'est leur grand-père, c'est leur ancêtre. Tous les sacrificateurs juifs, leur ancêtre c'est Aaron. Maintenant, Melchisédek ce n'était pas Aaron, puisque Melchisédek est lui, il existait en même temps qu'Abraham. Donc Abraham s'est prosterné devant Melchisédek. Donc Melchisédek ne vient pas d'Aaron, puisque Aaron c'est le petit-fils d'Abraham. L'arrière-petit-fils d'Abraham. Donc on veut dire que comme Jésus aussi n'a pas de commencement de jour, ni de fin, donc, et qu'il est sacrificateur, il ne l'est pas selon la logique de Lévi, puisque lui n'a pas de commencement de jour. Parce que tous les sacrificateurs ont un commencement de jour, et leur ancêtre c'est Aaron. Maintenant, Jésus, lui, n'a pas de commencement de jour. Donc son sacerdoce est celui de Melchisédek, ce n'est pas celui d'Aaron, puisque lui n'a pas de commencement de jour. Donc c'est ce qui fait sa supériorité à Aaron, puisque le papa d'Aaron s'est prosterné devant Melchisédek. Donc c'est pourquoi on dit que Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et donc Abraham est un personnage important pour la foi chrétienne, parce qu'Abraham a rencontré Melchisédek, que nous supposons être une préfiguration, nous pensons être une préfiguration de Jésus. Et il y a Isaac aussi, bon, on a eu aussi à parler un peu longuement d'Isaac, mais bon, on n'a pas tout dit. Il y a aussi un exemple avec Isaac où Isaac retrouve des puits construits par son père autrefois, il les remet en usage. Mais les Philistins, les gens du coin, ils viennent à chaque fois l'embêter et ils leur laissent le puits. Il remet encore en usage un autre puits, on vient l'embêter et leur laisse le puits. Jusqu'à ce que, je crois, à deux ou trois reprises comme ça, Il a été mis en difficulté. Il ne s'est pas battu. Il avait foi en Dieu. Il leur a laissé le puits jusqu'à ce qu'il a construit un autre puits. Là, on l'a laissé tranquille. Il a donné le nom de Rehoboth à ce puits-là. Mais bien aimé, c'est des actes de foi pour ne pas résister ainsi aux méchants. Alors que c'est toi qui as bâti le puits, ou bien, d'ailleurs c'est le papa d'Isaac qui avait fait ça, Abraham, et lui il vient remettre ça en usage, on vient l'embêter, il laisse faire. Il faut avoir foi que celui qui est avec toi te donnera un autre puits. Au fait, le comportement, quand on dit que quelqu'un est bon, juste, c'est lié à la foi, parce que tu ne peux pas être réellement juste si tu ne comptes pas sur une plus grande justice. Voilà. Donc sinon, nous vivons dans un pays de désordre. Sinon, tu es plutôt dans la défaite. Tu es dans l'esclavage. Or, ceux qui ont la foi sont libres. Mais seulement, quand ils se mettent en esclavage, quand ils acceptent ça, c'est parce qu'ils ont foi qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus, qui s'occupe d'eux. C'est pourquoi les Paul et les Pierre disaient aux chrétiens de leur époque, à leur époque, il y avait l'esclavage. Donc, on pouvait avoir des esclaves dans une maison comme serviteurs. Et il y a des chrétiens qui étaient esclaves. Maintenant, quand ils avaient reçu l'évangile, ils comprenaient que maintenant, leur maître, c'est le Dieu Tout-Puissant. Ils n'ont pas à être esclaves d'un homme. Alors, beaucoup ont voulu quitter l'esclavage humain, comme ça, physiquement. Et Paul et Pierre leur ont dit, mais non, vous n'avez pas besoin de quitter un esclavage humain comme ça, comme si vous l'étiez, comme si vous étiez esclave. Vous n'êtes pas esclave parce que vous avez le Dieu Tout-Puissant qui s'occupe de vous. Donc en réalité, vous êtes esclave par la volonté de votre Père. Donc acceptez cela et si Dieu vous donne une occasion de ne plus être esclave, ben c'est bien. Mais s'il vous laisse dans cet état-là, restez dans cet état-là. Ne cherchez pas à quitter cet état par vous-même. Donc tout ça, c'est des actes de foi. Donc tu te dis, bon, en réalité, je ne suis pas esclave. Puisque Dieu est mon Père, Dieu est le maître de l'univers, il s'occupe de moi, il a voulu que je sois dans cet état selon ses desseins à lui, selon son plan à lui. C'est ça la foi. Sans la foi, on ne peut pas avoir un comportement de douceur. On ne peut pas avoir un comportement d'amour. Donc, parce que la foi nous fait reposer sur une plus grande justice, une plus grande puissance qui est Dieu. On sait qu'il s'occupe des choses. Alors, ça me permet, moi, de manifester l'amour, de manifester l'humilité. Oui.
Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce passage à tort en se disant que si on peut, dans cette situation, il devait rester esclave des hommes, est-ce que dans certaines situations, on a le droit de rester esclave de choses du monde, comme par exemple certaines personnes restent esclaves de la cigarette, en se disant que bah non, si on avait le droit de rester esclave d'un homme, tant que je n'ai pas la foi que le Seigneur va me libérer, je reste dans la cigarette sans chercher, vous voyez non, ce que je veux dire.
Ça, c'était un péché, c'est un péché. L'esclavage des choses du monde, c'est une sorte de péché. Voilà. Celui qui aime, oui, je comprends. Voilà. Celui qui aime les choses du monde est inimitié, est ennemi de Dieu. C'est ce qui est écrit. Alors que là, c'est l'esclavage par rapport à des circonstances de la vie. Et par rapport à un homme, c'était pas comme si on aimait ça. Voilà. On subit quelque chose et Dieu nous dit, accepte de subir ça. Dans tous les cas, c'est moi qui contrôle. Et si je le veux, tu ne seras pas. Donc, en réalité, tu ne subis pas. En fait, la foi nous fait montrer que, en réalité, nous ne subissons pas. En réalité, nous marchons selon le plan de Dieu. Un point, c'est tout. Donc, ces gens-là qui paraissent forts, ils ne le sont pas en réalité. C'est Dieu qui contrôle tout. Et sans la foi, on ne peut pas. Par exemple, on ne peut pas se soumettre à un mari si on n'a pas la foi. On le fera avec colère. On le fera avec dégoût. Mais si vraiment on a la foi, on se dit, moi je fais ma part, je me soumets, mais il y a Dieu qui est juste, tout puissant. S'il voit que l'autre veut profiter de ma soumission, Dieu l'arrêtera. Dieu s'occupera de lui. Donc ça te donne la paix pour obéir. Parce que tu as foi en Dieu. Si tu n'as pas foi en Dieu, tu ne peux pas voir vraiment le comportement agréable à Dieu. C'est ce qui est écrit, Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est impossible. Donc, il faut se reposer sur Dieu à partir de ce moment-là, même quand tu as la possibilité, on t'a donné de l'argent, en excès, alors qu'on devait te rendre 500, on te donne 50 000, tu te dis, mais ça, c'est une occasion en or. Mais puisque tu as la foi en Dieu, tu te dis, non, mais ce n'est pas mon argent, je vais rendre les 45 000, même si le monde entier va me traiter de fou, je rends les 45 000 parce que je compte sur Dieu. Je sais que mon avenir est entre ses mains. Donc, avoir foi en Dieu permet les bonnes actions, permet les bons actes. C'est ça qui est dit dans Hébreux 11:6. Sans la foi, on ne peut pas faire les bons actes. Parce qu'on sera toujours troublé voulant régler nos problèmes nous-mêmes. Donc, on a besoin de la foi en Dieu. Sans la foi, on ne peut pas faire des projets alors qu'on est alité sur un lit. C'est inutile de faire des projets. Mais quand on a foi en Dieu, on se dit, mais non, le Seigneur est tout puissant, il me guérira. Et je peux faire des projets. Voilà. La foi est très importante. Donc on a Isaac aussi qui est un grand exemple de foi à plusieurs égards. Maintenant, il faudrait relire cela. Mais aujourd'hui, nous commençons, il y a aussi Jacob, on commence par l'histoire de Joseph, mais il y a Jacob aussi qui a été un homme de foi. Et on se souvient de l'épisode le plus important de la vie de Jacob, c'est lorsqu'il a été appelé Israël. Donc il a combattu un homme toute une nuit et le matin, cet homme-là allait partir. Jacob l'a retenu. Jacob lui a dit, bénis-moi. Si tu ne me bénis pas, je te retiens. Donc, Jacob qui a souffert de la part de cet homme-là, parce que cet homme-là, ça qui doit être sûrement un ange, là, lui a fait mal à l'ange. Mais Jacob a insisté. Donc, quelqu'un qui te fait mal, tu insistes pour qu'il ne s'en aille pas et qu'il te bénisse. Donc, c'est un témoignage du fait que quelqu'un qui a l'amour pour Dieu, même quand marcher avec Dieu lui crée des souffrances, mais il veut quand même rester avec Dieu. Donc Jacob est un exemple de cela. Donc alors que le monsieur là lui a fait du mal, Jacob dit, je ne te laisse pas partir, il faut que tu me bénisses. C'est ça les gens de foi. Les gens qui aiment Dieu, qui ont la foi, même quand ils souffrent par leur collaboration avec Dieu, ils préfèrent quand même souffrir avec Dieu plutôt que fuir cela. Il dit, je te garde avec moi, bénis-moi, c'est toi que je veux. Et on lui a donné le nom d'Israël et jusqu'à aujourd'hui, ce nom-là existe. Oui.
Je ne comprends pas trop la position de ce personnage et Jacob à ce moment-là. Il voulait le tuer, il voulait quoi? Il voulait... Parce que si c'était un ange, il aurait pu le tuer. Il aurait pu le tuer.
Mais il n'a pas pu le tuer.
Mais il voulait... Qu'est-ce qu'il voulait prouver?
Voulait prouver quoi? Qui? Dieu?
Mais je ne sais pas qui... Je ne comprends pas l'enjeu de ce combat de Jacob et l'ange.
C'est une expérience spirituelle qui a pour explication la chose suivante. C'est que la collaboration avec Dieu est une lutte. C'est une lutte. Donc l'homme, la foi est une lutte. Parce que l'homme a ses propres ressources. L'homme a été créé avec une autorité. Mais on lui demande maintenant d'accepter l'autorité de Dieu. Ça crée une lutte qui fait que à la fin, Jacob, lui, n'a pas cédé. Dans cette lutte-là, Jacob a continué à rester dans la bagarre. Puisqu'il y en a qui peuvent dire, bon, on ne veut plus de Dieu. Mais Jacob a continué à lutter jusqu'au bout. Il a eu foi que Dieu était avec lui. Donc le problème, c'est que quand on lutte ainsi avec Dieu, Dieu nous soutient en même temps. Pendant qu'on lutte avec lui, lui nous soutient aussi en même temps dans cette lutte-là. Et Jacob a accepté ce soutien-là jusqu'au bout, à tel point que, malgré la souffrance, il a préféré que cet homme-là, qu'il a considéré comme un envoyé de Dieu, le bénisse quand même. Il l'a gardé avec lui pour qu'il le bénisse. Donc c'est une expérience spirituelle qui montre que à un certain moment dans la vie d'un chrétien, il y a dans la vie d'un serviteur de Dieu, il y a une lutte avec Dieu.
Cette lutte, style, j'ai pas envie de faire ce que tu me demandes. Lutte.
Non, cette lutte, ça peut être le fait que on a l'impression qu'avec Dieu, ce n'est que souffrance, mais on est toujours là quand même. Et donc, que faire? Et donc, Dieu, en quelque sorte, il veut te fatiguer, il veut t'amener à le renier. Mais toi, tu ne renies pas parce que tu l'aimes beaucoup, tu considères que c'est lui la vérité. Voilà. C'est cette lutte-là qui arrive dans la vie de tout homme. Donc, Dieu t'embête pour te pousser à dire « je ne veux plus de toi ». Mais en même temps, il t'aide pour ne pas que tu dises cela. Donc, c'est là où ta foi est en action pour dire « non, 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 non ». Dieu est bon, il ne va pas m'abandonner. Dieu est avec moi. Et malgré tout ce qu'il fait pour que tu conclues qu'il n'est pas avec toi, mais le Saint-Esprit t'aide encore pour que tu dises non, 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 tu es quand même avec moi. C'est la lutte que Jacob a avec. Parce que c'était avant qu'il rencontre Ésaü qui venait le menacer. Voilà, donc c'était là, il avait peur. Maintenant, il y a eu cette lutte-là la nuit. Donc, où, voilà, ça symbolise le fait que dans la marche avec Dieu, ben, il y aura des maltraitances de la part de Dieu pour nous amener à le renier. Mais le but, c'est de sortir la foi profonde qui est cachée en nous, que nous, on peut ignorer même. Donc les vrais serviteurs de Dieu ont une foi profonde. Et Dieu va permettre de telles expériences pour sortir cette foi profonde, pour les rendre forts concrètement. Et Jacob a réussi l'épreuve. Dieu lui a donné le nom d'Israël. Qui a combattu avec Dieu a été vainqueur. Voilà. Qui a combattu, pas contre Dieu, mais avec Dieu. Il y a quand même cette nuance-là. Oui,
oui, aussi pour répondre à la sœur aussi. C'est un passage aussi qui m'avait beaucoup interpellé au début de ma marche chrétienne. Et c'est vrai que je l'avais compris comme tu l'as expliqué. Et là où je me posais la question, c'était... Enfin, je remarquais que juste avant la lutte, on voit qu'il est écrit au verset 22, il est écrit « Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. » Donc là, on comprend vraiment qu'il engage tout quoi dans sa vie. Avant ce combat-là, il a vraiment tout engagé. Donc tout ce qu'il possédait, il l'a déjà donné à Dieu en fait, en quelque sorte.
Oui, il y a ça. Et il y a aussi le fait qu'il passe à une autre étape. Quoi.
Voilà, ouais.
Avec tout ce qu'il avait. Oui.
Moi, j'ai compris ça de cette manière. Est-ce que ça ne serait pas que cette lutte, c'est pour montrer à Jacob, pour cette lutte avec Dieu, c'est pour aussi peut-être... démontrer à l'homme que nos efforts charnels ne sont que une faiblesse. Prenons l'exemple de Pierre, par exemple, qui voulait suivre Jésus, qui, bien qu'il était courageux, mais Jésus va lui dire que avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Donc, est-ce que c'est pas en quelque sorte, puisque il s'appelait Jacob avant?
Oui, après, donc Dieu, c'est une lutte. Donc, bon, peut-être moi je vais dire autrement, c'est une lutte pour nous épuiser, nous,
justement,
dans notre force à nous,
oui, personne,
et
oui.
Sortir ce qui est caché, qui vient de Dieu en nous.
Oui.
Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on reçoit dérangement sur dérangement, embêtement sur embêtement, pour, si on s'accrochait à une logique humaine dans notre foi, que cela soit cassé pour sortir vraiment un lien pur avec Dieu, lié à lui-même Dieu et non lié à notre conception, quoi. Mais Jacob a été vainqueur et comme j'ai l'habitude de dire, ben, c'est des gens à qui Dieu rend témoignage, c'est des grands exemples. Donc tout ce que nous faisons là, cette série de héros de la foi, Le but, c'est qu'ils deviennent nos modèles. Parce que lire tout simplement comme un roman, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est qu'ils deviennent nos modèles, qu'on s'inspire de ce qu'ils ont vécu. Et il faut savoir que ce qu'ils ont vécu, c'était très dur, mais ils ont été vainqueurs. Par l'aide, avec l'aide de Dieu toujours, mais ils ont été quand même vainqueurs. Comment ? Parce qu'ils ont eu foi en Dieu. Donc le terme foi revient toujours. Comment ils ont pu être vainqueurs ? Parce qu'ils ont eu foi en Dieu. Si on n'a pas foi en Dieu, on ne peut pas. Et c'est ça qui est la leçon de tous ces exemples. Donc maintenant, nous commençons à décortiquer certains cas beaucoup plus longuement. Nous prenons le cas de Joseph. Nous lisons dans Genèse 37. On va lire l'histoire de Joseph. Genèse 37. Alors, avant de lire l'histoire de Joseph, je voudrais dire que Joseph et Moïse, ainsi que David, font partie de trois grands types de Christ. Donc, ce qu'on appelle type de Christ, il y en a beaucoup. C'est des gens dans l'Ancien Testament qui ressemblent à Jésus dans leur mission ou dans leur comportement avant le temps. Voilà, qui ressemblent à Jésus, soit dans leur mission, soit dans leur comportement, soit dans les deux. Donc, quelqu'un comme Jonas aussi est un type de Christ. N'en déplaise certains. Hein. Donc, c'est un type de Christ. Parce que Jésus s'est comparé à Jonas en disant de la même manière que Jonas a fait 3 jours dans le ventre du monstre, moi aussi je vais faire 3 jours dans le ventre de la terre. Donc, et Jonas a été envoyé à un peuple étranger. Jésus aussi finalement a été envoyé à un peuple étranger. Donc Jonas est aussi un type de Christ. Il y en a beaucoup de types de Christ. Abraham, Isaac est un type de Christ. Il y a beaucoup de types de Christ, mais Joseph, Moïse et David, c'est les trois grands. Oui.
Oui, justement, pendant que tu parles de Jonas, je voulais te poser la question. Dans cette histoire, Dieu s'est quelque part imposé sur Jonas pour qu'il fasse sa volonté. Est-ce que là, malgré tout, on parle de foi quand Dieu s'impose sur nous parce qu'il veut qu'on fasse quelque chose, mais on résiste parce que pour telle ou telle raison, mais que Dieu s'impose. Est-ce qu'on peut parler de foi ou...
Non, Jonas, au contraire, Jonas avait foi en Dieu. C'est pourquoi il a refusé la mission. Il n'y avait pas un conflit entre Dieu et Jonas, c'est lié à la foi. C'était un conflit lié à la soumission. C'est-à-dire que Jonas savait que Dieu est bon, c'est ça qui le dérangeait. Et donc, Dieu voulait montrer à Jonas qu'il est quand même souverain, il fait ce qu'il veut. Donc, que ma bonté ne soit pas un frein pour toi. On se souvient des ouvriers de la dernière heure. Quand on leur donne le même salaire que les autres, mais les autres disent, mais non, nous on a travaillé plus. On dit, mais oui, mais que ma bonté ne vous dérange pas, parce que moi je vous avais promis une somme, j'ai honoré cette somme-là. Donc on ne peut pas dire que ces ouvriers-là n'avaient pas foi au maître. Ils avaient foi, mais c'est qu'ils refusaient la nature du maître, ils refusaient sa souveraineté, qu'il fasse de son argent ce qu'il veut. Donc Jonas, son problème, c'était comment Dieu pouvait, après que lui ait prophétisé que Ninive sera détruite, s'il se repente, mais comment Dieu peut encore le pardonner? Ça fait échouer sa prophétie après tout. Et puis, après tout, les Ninivites, c'est des gentils, c'est des étrangers, c'est des non-juifs. Comment Dieu peut être miséricordieux? Donc Jonas, au fond de lui, savait que Dieu est tellement bon que s'il menace Ninive et que les Ninivites se repentent, Dieu risque de leur pardonner. Alors, il voulait éviter ça. C'est ce qu'il voulait éviter. Donc, c'est un autre problème. C'est un problème d'accepter la souveraineté de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui peuvent avoir foi en Dieu, mais un jour, Dieu envoie un enfant de 10 ans te prophétiser, te parler. Voilà. Donc, tu es en colère, non pas parce que tu ne crois pas que Dieu parle. Ou pas, mais tu es en colère parce qu'on utilise un petit pour te parler. Voilà, oui.
Oui, bon, alors à ce moment-là, on occulte l'exemple de Jonas, mais par rapport à une situation où, Bon, tu connais au fond de toi la volonté de Dieu, mais tu n'obéis pas, tu ne fais pas. Malgré tout, les circonstances font que ça pèse. Enfin, il y a un moment, tu es obligé de lâcher, quoi. Est-ce que tu peux parler quand même de foi ou pas ?
Oui, on a, puisque quand même, je l'ai dit pendant les séances précédentes, c'est que ce n'est pas à chaque seconde qu'on est éprouvé et on manifeste la foi à chaque seconde. C'est-à-dire qu'il y aura des événements principaux dans nos vies qui détermineront qui nous sommes. Et pendant ces événements principaux, on reçoit la détermination et ça nous change. Donc même si après, entre ces événements principaux, on a quelques faiblesses, Dieu sait ce qu'on a décidé déjà dans nos cœurs. Et Dieu honore ça, il envoie son esprit nous soutenir. Donc j'avais donné l'exemple de la voiture. Au début, ça demande vraiment la foi de savoir qu'on peut faire une longue distance. On peut, alors on démarre. Mais quand la voiture roule, le fait que ça roule, ça enlève la crainte que ça ne roule pas. Puisque donc, au début, c'est toi qui démarres la voiture, mais après, c'est la voiture qui te porte. La foi, c'est la même chose. Dans certains événements importants de nos vies, dans certains tournants de nos vies, quand on l'a manifesté, après, c'est elle qui nous soutient. Donc, c'est cela. Donc, il peut y avoir des temps de faiblesse, mais Dieu ne va pas nous tenir rigueur par rapport à ça. Il continue, c'est son alliance. Il reste fidèle à son alliance. Puisque la foi amène les gens à faire des alliances avec Dieu, des traités, des contrats avec Dieu. Maintenant, il est écrit, ce n'est pas à cause de l'infidélité des gens que Dieu va être infidèle. Lui, il reste fidèle. Donc, du moment qu'à un moment de notre vie, on a fait une alliance avec lui, même quand nous, on commence à faiblir, lui, il exerce sa fidélité et il nous réveille et il nous ressoutient et il nous amène jusqu'au bout. C'est pourquoi nous pensons qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut dans le sens où il va être surpris par le péché. Non, surpris par l'enlèvement. Non, le chrétien perdra le salut parce qu'il a renié Dieu, parce qu'il n'a pas foi. Dieu préviendra toujours, Dieu va faire tout. Parce que Dieu reste fidèle dans sa partie à lui, même si nous on n'est pas fidèle. Donc il va tout faire pour nous ramener. Et le problème, ça va être que certains vont dire clairement, bon, moi je ne veux plus de Dieu, parce que ça ne marche pas ces histoires-là. Et là, c'est vrai que le contrat est rompu, parce que le contrat est fait par la foi. C'est la foi qui scelle le contrat. Donc il se peut que parfois Dieu s'impose sur nous. Mais il ne s'impose pas pour s'imposer, il s'impose parce qu'une fois, on a fait un contrat avec lui. Et lui, l'honore sa partie de contrat. Donc, pourquoi il s'impose? Parce que tu lui avais dit que je te donne ma vie. Donc, maintenant qu'il t'envoie faire quelque chose que tu ne fais pas, ah ben, il va faire en sorte de s'imposer, puisqu'il fait sa partie, puisque tu lui avais donné sa vie, ta vie. Je me souviens d'un monsieur qui, pendant qu'il se noyait, il a dit, Dieu, si tu me sauves, je te servirai. Et 10 ans après, il n'avait toujours pas servi Dieu. Donc, on connaît comment ça se passe. Hein. Dès qu'on est bien, on oublie. Donc, un jour, il a contracté une maladie qui ne guérissait pas. Et lors d'une réunion chrétienne, un pasteur l'a fait appeler devant parce qu'il était venu en tant que malade, il cherchait la guérison. Il a dit au monsieur, mais toi, tu avais promis de servir Dieu, mais tu n'as jamais servi. C'est pourquoi tu es malade ainsi. Le monsieur a dit, je n'ai jamais fait cette promesse. Parce que ce n'était pas quelqu'un qui allait dans les églises. Il a dit, mais moi je vais faire cette promesse où? Je n'ai jamais dit à Dieu que j'allais le servir. Il a nié devant le pasteur. Mais quand il est rentré chez lui, il s'est souvenu. Ah oui, c'est vrai. Pendant que je me noyais, j'avais dit ça. Et il est revenu, on a prié pour lui, il était guéri. Mais parce que il n'avait pas honoré sa partie, et bien, Dieu s'est imposé quand même par une autre maladie, par quelque chose d'autre. Donc c'est cela. Mais il ne s'impose pas chez n'importe qui. Il s'impose sur ses élus à lui, sur ses gens à lui. Parce qu'ils ont des contrats, ils ont un contrat avec lui. Ok, donc nous commençons maintenant l'histoire de Joseph. Un des grands types de Christ, sinon le plus grand. Parce que je vais vous donner des comparaisons, mais il y a des comparaisons entre Joseph et Jésus beaucoup plus profondes que moi je vais en donner. Après que le Saint-Esprit rajoute. Jacob habita dans le pays de Canaan, Genèse 37, où son père avait séjourné. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. Tout jeune garçon, il était auprès de fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père. Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs à lier des gerbes. Et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu prétends régner sur nous, bien-aimés ? » Les comparaisons sont tellement fortes que ça m'impose de m'arrêter là. Jésus-Christ, fils de Dieu, envoyé par son Père, voit qu'est-ce qui se passe dans son troupeau Israël. Et Jésus arrive. Dieu dit, « Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Et Joseph, on dit qu'il était aimé par son Père plus que les autres. Et ça, ça crée la jalousie des autres. Mais c'est Dieu qui a dit, « Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus arrive à Nazareth, il ouvre la Bible, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Et il finit, dit, « Cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Autrement dit, c'est moi le Messie. » Les autres disent, « Non, ce n'est pas possible. Toi, tu ne peux pas. Ça c'est le fils du charpentier. » C'est le fils de Joseph. C'est depuis quand lui, il peut devenir notre Messie. Bien-aimé, la comparaison entre Joseph et Jésus, c'est très, très grand. C'est très, très grand. Nous continuons. Verset 9. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, « Voilà que j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le gronda et lui dit, « Que signifie ce rêve que tu as fait? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Les frères de Joseph s'en étaient allés pour faire perdre le petit bétail de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, « Tes frères font paître le troupeau à Sichem. Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Tu vas aller voir si tes frères vont bien et si le petit bétail va bien. Tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph se rendit à Sichem. Un homme le trouva en train d'errer dans la campagne, l'homme le questionnant en disant, « Que cherches-tu ? » Il répondit, « Je cherche mes frères. « Dis-moi, je te prie, où ils font perdre leur troupeau ?» L'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph suivit les traces de ses frères et le trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'ils se soient approchés d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voilà le maître rêveur qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne nous en prenons pas à sa vie. » Ruben ajouta, « Ne répandez pas de sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main sur lui. C'était pour le délivrer de leurs mains afin de le ramener à son père. » Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique bigarrée qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide ils n'avaient point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger un morceau. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de ladanum, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Puis au passage de trafiquants madianites, ils tirèrent Joseph et le firent remonter de la citerne. Ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voilà que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit « L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je ? » Ils prirent alors la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc et plongèrent la tunique dans le sang. Puis ils envoyèrent la tunique bigarrée à leur père en lui faisant dire « Nous avons trouvé ceci. Reconnais donc si, oui ou non, c'est la tunique de ton fils. » Jacob la reconnut et dit « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils. Pendant de longs jours, tous ses fils et toutes ses filles se levèrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation. Il disait, « C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Madianites vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant des gardes. Donc nous nous arrêtons un instant pour montrer, ce n'était pas l'objectif, mais nous montrons, après nous parlerons de la foi, nous voyons encore le lien entre Joseph et Jésus. On se souvient de la parabole des vignerons. La parabole des vignerons, c'est la parabole qui a précipité le fait qu'on fasse un complot pour tuer Jésus. Mais dans cette parabole, il annonce aussi lui-même ce complot-là. Donc il explique que un maître avait donné sa vigne à des vignerons pour s'en occuper. Après, il envoie des serviteurs pour leur rendre compte. Mais c'est comment ça se passe? On les a tués. Et ce serviteur-là symbolise les prophètes. Il envoie d'autres, on les a tués encore. Après, il s'est dit, mais tiens, je vais envoyer mon fils. Mon fils, au moins, ils vont le respecter. C'est là que, là, Jacob envoie Joseph pour que Joseph puisse regarder comment ça se fait. Et là, Jésus clôture la parole en disant, quand le fils arrive, les vignerons se disent, voici le fils, tuons-le, après la vigne va rester à nous. Et là, quand Joseph arrive, il dit, ben, le voilà qui revient, le maître rêveur, donc celui qui se prétend notre chef, ben, on va le tuer. Comme ça, nous serons libérés de lui une fois pour toutes. Le règne sera à nous. Et bon, cela n'a pas été permis, mais par contre, ils ont pris sa tunique, comme on avait pris la tunique de Jésus. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Joseph. Et maintenant, on peut dire qu'au moment où on a voulu briser les os de Jésus, mort à la croix, pour accélérer sa crucifixion, il y a quelqu'un qui a dit, ce n'est pas la peine, puisqu'il est déjà mort. Or, il y a une prophétie de l'Ancien Testament qui dit qu'on ne brisera pas ses os. Voilà, donc il ne fallait pas qu'on brise les os de Jésus. Or, pour accélérer la mort d'un crucifié, parce que ça prend du temps parfois pour, quand on est crucifié, pour mourir, le but, c'est on leur mettait quelque chose en bas des reins pour faire qu'ils se reposent, pour qu'ils ne meurent pas vite, parce que le but de la punition, c'est que tu souffres. Donc il ne fallait pas que tu meures vite. Mais maintenant, comme le sabbat s'approchait, les Juifs ont voulu que les gens meurent vite. Donc alors, il fallait leur briser les os, comme ça accélérait la mort. Mais quand ils sont venus pour briser les os de Jésus, il était déjà mort. Donc ce n'était pas la peine. Et c'est ça qui a permis l'accomplissement de la prophétie. Et donc Joseph, donc à un certain moment, ils ne sont pas partis jusqu'au bout. Et ils ont préféré le tuer en quelque sorte, en l'exilant, en le vendant à d'autres personnes. Mais déjà là, nous voyons le comportement de Joseph qui présente ce qu'il fait comme rêve avec simplicité, sans artifice. Donc il reçoit une révélation, il présente cette révélation sans problème. Et ça, c'est une attitude aussi de foi. Donc quelqu'un qui a foi en Dieu ne fait pas d'artifice, il ne fait pas de complications, il a reçu quelque chose, il donne ce qu'il a reçu. Maintenant, que ce soit de Dieu ou pas, lui donne, parce qu'il considère que ce que Dieu veut, c'est ce qui s'accomplira. Ce qu'il dit, si c'est de Dieu, ça s'accomplira. Même s'il ne le dit pas, ça s'accomplira. Donc il donne tout simplement. Et il considère que si ce n'est pas de Dieu, ça ne s'accomplira pas. Donc, mais lui, il veut rester simple devant Dieu comme un enfant. Il donne les révélations qu'il reçoit dans les songes. Oui ?
Et une chose aussi, c'est que dans la ressemblance avec Christ, à aucun moment, on voit que Joseph s'est débattu, a voulu résister, a voulu se défendre. On voit que il est silencieux, quoi. On n'entend même pas.
Effectivement, oui, oui. Voilà, il se laisse faire comme un agneau, et c'est ce que Jésus aussi a fait. Et là, Joseph, avec une grande simplicité, il manifeste la foi en disant ce qu'il reçoit, sans arrière-pensée. Il dit ce qu'il reçoit, mais ça crée des problèmes. C'est pour nous dire, bien-aimés, certains d'entre vous seront des prédicateurs. Il ne faut pas faire d'artifice. Il faut dire ce qu'on reçoit. C'est vrai qu'il y a toujours des mauvaises réactions quand on prêche. Il y a toujours des gens qui pensent plus que ce qu'on a dit. Mais tout ça ne doit pas motiver notre façon de parler. Nous devons parler comme des enfants, simplement. Dire ce qu'on a reçu, puisque dans ton cœur, tu n'as pas d'arrière-pensée. Dis ce que Dieu t'a demandé de dire. Mais dès qu'on commence à mettre des artifices, parce qu'on ne veut pas blesser un tel, on ne veut pas faire ceci, on ne veut pas qu'on croit que ceci, ça complique le message de Dieu. Donc on manque la foi en Dieu. On doit avoir foi en Dieu que son message atteindra la personne que lui l'a voulu sauver, qu'il a voulu éduquer. On doit avoir foi en Dieu. Quand on a foi en Dieu, on est simple, on dit les choses et on compte sur Dieu. On ne cherche pas à imposer des choses par des artifices, à parler d'une manière, non. On dit quelque chose. C'est ça être un prophète. Un prophète, c'est un messager de Dieu. Ce n'est pas un raisonneur, ce n'est pas un philosophe. Il dit ce que Dieu lui demande de dire. Et soyons des prophètes, ne cherchons pas, ne devenons pas des philosophes. Soyons des prophètes, disons ce que Dieu nous demande de dire. Et c'est très important parce que c'est dans cette simplicité-là que le vrai message sortira. Mais dès qu'on commence à trop raisonner, vouloir satisfaire les gens, vouloir pas choquer un tel, ceci, cela, forcément, ça nous conduit à déformer le message. Ce manque de foi est très dangereux parce que ça nous conduit à déformer le message. Nous devons avoir foi en Dieu, que Dieu agira comme il le faut. C'est très important. Et souvent, nous sommes étonnés parce qu'on se dit, mais telle chose, je pensais que ça allait choquer un tel, mais finalement, ça ne l'a même pas choqué. Finalement, parfois, il est content. Voilà, donc c'est cela. Nous continuons. Nous allons au chapitre 39. On fit descendre Joseph en Égypte, et l'Égyptien Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant des gardes, l'acheta aux Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph. Celui-ci réussissait à tous égards. Il était dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Joseph obtint la faveur de son maître dont il assurait le service et qu'il avait établi comme intendant sur sa maison en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Dès que Potiphar l'eut établi comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tout ce qui lui appartenait, aussi bien dans la maison qu'au champ. Il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et avec lui, il ne s'occupait plus de rien, sinon de la nourriture qu'il mangeait. Or, Joseph était d'une très grande beauté. Après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « voici qu'avec moi, mon maître ne s'occupe de rien dans la maison et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? Elle avait beau en parler jour après jour, il n'écoutait même pas ses propositions de coucher auprès d'elle pour s'unir à elle. Un jour, il entrait dans la maison pour faire son ouvrage. Il n'y avait là dans la maison personne des gens de la maison. Alors elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui abandonna son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait abandonné son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur parla en ces termes. « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais je me suis mise à crier très fort. Quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla de la même manière en lui disant « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a abandonné son vêtement à cause de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il le fit mettre en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Joseph resta là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bienveillance. Il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison et tout ce qui s'y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne supervisait rien de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. L'Éternel faisait réussir ce qu'il faisait. Amen. Donc ça, c'est un grand encouragement de voir que lorsqu'on est quelqu'un de Dieu, on a foi au Seigneur, lui aussi il est fidèle, on réussit dans tout ce qu'on entreprend. Et Joseph est entraîné en Égypte, il est maintenant pris chez Potiphar, le chambellan du pharaon. Et nous voyons une réalité qui est dite et redite dans la Bible, ce qu'on appelle l'intercession, le fait d'être un intermédiaire. Donc dans la Bible, on nous parle d'une réalité qui est oublié par beaucoup de gens, c'est qu'une personne qui a la faveur de Dieu, lorsqu'on est proche de cette personne-là, cette faveur se répercute sur nous. Voilà, c'est une réalité. Maintenant, ça peut passer aussi par la prière. Donc cette personne-là peut prier pour nous. Et on se souvient du centenier romain qui a demandé à Jésus de guérir son serviteur. Son serviteur lui-même n'avait pas la capacité de parler à Jésus. Et lui qui était romain a demandé aux anciens juifs. Et les anciens juifs ont parlé à Jésus. Vous voyez la chaîne d'intercession. Le romain, il parle aux anciens juifs, les anciens juifs vont parler à Jésus. Pour dire, mais il faut que tu guérisses le serviteur de ce monsieur. Il nous aide beaucoup. L'intercession, c'est quelque chose de très très important. On peut changer, améliorer notre environnement, notre famille, par l'intercession et par notre comportement, par notre présence. Si Dieu est favorable à nous, il sera favorable avec ceux qui nous entourent. C'est une réalité. C'est... D'ailleurs, vous savez, il y a un verset où Dieu dit, même si Samuel venait me parler, je ne vais pas faire la chose. Donc ça veut dire que Samuel, donc il y a des gens qui peuvent prier, mais quand Samuel demandait quelque chose, Dieu bougeait pour faire la chose. Et ça existe, c'est dans la Bible. Et il y a même un autre verset qui dit que l'Éthiopien ou une race quelconque devra son salut par tes mains, quoi, par la bonté de tes mains. Alors, donc il y a des gens qui doivent leur salut par la bonté des autres. Oui, oui. Pasteur.
Oui, je veux soulever un point par rapport à une remarque que tu as faite. Bon, ce n'est pas trop dans le thème. Dans le fait qu'une personne, voilà, qui pourrait être notre source de bénédiction. Donc le fait que cette personne ait certaines faveurs et de s'approcher d'elle, on peut aussi en profiter. Voilà, maintenant, quelle est notre position, quelle doit être notre attitude aujourd'hui? Parce que ce qui se passe, c'est que dans ce que nous voyons dans le monde chrétien, lorsqu'on a l'impression que tel a la capacité de guérir, tel a la capacité, on cherche à tout prix à se rapprocher. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vont de gauche à droite parce qu'ils apprennent qu'il y a un tel homme, il y a un tel homme, il y a un tel homme.
Non, moi, voilà, l'idée qui est là, c'est la suivante, de ne pas négliger l'intercession, de ne pas négliger les gens qui sont avec Dieu, parce que par eux, Dieu bénit. Mais ce n'est pas idolâtré, parce qu'on risque d'avoir qu'une bénédiction terrestre, et ce n'est pas bon. Ça sert à quoi d'avoir une bénédiction terrestre et perdre la vie éternelle? Le vrai intérêt qu'on peut saisir de ces gens-là, c'est se rapprocher de Dieu. Grâce à eux, se rapprocher de Dieu. Mais toujours est-il que Dieu bénit aussi réellement, matériellement, à cause d'eux. D'ailleurs, c'est écrit en Proverbe 11:11, la ville prospère par la bénédiction des hommes droits. C'est une réalité que Dieu a sa façon d'agir et il passe par les hommes droits. Même quand on ne le voit pas, on se souvient de cette histoire en Chine. Un homme qui était un peu, simple mentalement. Donc, il n'était pas comme nous tous, mais il était chrétien. Et il passait son temps à prier pour tous les villageois qui n'étaient pas chrétiens, puisque il était, je crois, le seul chrétien de la ville, du village plutôt. Et donc, il priait. Même déjà que de nature il était un peu simple, en plus de ça il passait son temps à prier, ça renforçait l'idée qu'il était fou, quoi. Et donc le jour où il est mort, il a commencé à avoir des tempêtes dans le village, des catastrophes naturelles dans le village, des sécheresses dans le village. Les villageois se disent Donc, la mort de cet homme-là est en relation avec nos problèmes. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se sont renseignés, ils ont compris qu'ils priaient Dieu pour tout le village, pour tout le monde. Mais c'est quel Dieu qu'ils priaient? C'est là que le village s'est converti à Jésus. Tout le village, en Chine, parce qu'ils ont compris que leur bénédiction venait de cet homme-là. Donc, ils se sont dit, mais quel Dieu ils prient? Vous voyez, c'est ça la bonne fin. Une bonne conclusion, c'est celle-là. C'est-à-dire, on dit, mais tiens, on est béni par un tel, mais pourquoi? Parce qu'il a foi en Dieu, mais moi aussi, je vais avoir foi en Dieu. Et voilà. Donc, ça ne doit pas s'arrêter à profiter juste de la présence. Comme beaucoup, ils profitent juste. On connaît beaucoup d'Africains. Ah, mon oncle est pasteur. Mon frère est pasteur. Mais oui, mais il faut que ça t'amène toi aussi à changer, à rencontrer Dieu. Tu veux juste profiter qu'il est pasteur pour se sentir comme protégé? Non, il faut que ça t'amène toi aussi à faire comme ces villageois chinois. Ils se sont dit, mais non, si Dieu nous a bénis pendant des années grâce à l'intercession de ce monsieur-là, donc nous-mêmes, nous allons intercéder pour nous-mêmes. Donc nous allons nous convertir à ce Dieu-là. Oui.
En parlant des ressemblances entre Jésus et Joseph, est-ce que le fait que Joseph a été jeté dans un puits avant d'être vendu par ses frères, et que le fait qu'il a aussi été aussi mis en prison avant d'être gouverneur en Égypte, cela n'a pas de rapport avec la mort de Jésus-Christ qui a été enterré et à la résurrection, il a été proclamé fils de Dieu par puissance.
Effectivement. Donc c'est aussi lié. Donc jeté dans une citerne comme une sorte de tombeau, et comme une sorte de mort. Et ensuite, il revient à la vie pour sauver ses frères plus tard. Donc c'est cette comparaison qu'on fera à la fin concernant Joseph et Jésus. Donc finalement, quand Jésus reviendra, il sauvera Israël. Donc c'est ce qui va se passer. Voilà, donc ça aussi c'est un point de très bon de comparaison. Donc nous continuons sur Joseph. Nous voyons que l'intercession, c'est très important. Là, maintenant, Dieu manifeste sa bonté. Donc, c'est vrai que dans notre vie chrétienne, il n'y aura pas que des difficultés. Donc, il y aura des temps où, même si Joseph était éloigné de ses frères, mais il expérimentait quand même la gloire de Dieu. Même si on n'a pas ce qu'on veut, parce que si on avait posé la question à Joseph en ce moment-là, il aurait préféré que son père le voie. Imaginez, parce que nous on ne voit que la souffrance de Jacob, mais imaginez aussi la souffrance de Joseph de penser que son père croit qu'il est mort. Donc ça aussi, c'était une grosse souffrance. Donc on aurait posé la question à Joseph, il allait dire, ce que je veux Dieu en ce moment, c'est retourner auprès de mes frères, auprès de mon père. Comme ça, mon père ne va plus continuer à pleurer. Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut, ce qui peut générer une certaine souffrance. Mais dans cette souffrance-là, la gloire de Dieu compense. Il y a une gloire qui nous entoure, qui nous environne. Dieu fait des choses, ça équilibre, ça nous permet de supporter la souffrance avec joie. C'est cela. Et Joseph reçoit une proposition facile. Et aujourd'hui, un des éléments qui font chuter les gens, c'est la facilité. Il y a des gens qui ne veulent pas céder, qui ne peuvent pas résister à la facilité. Dès qu'il y a facilité, ils tombent. Mais celui qui a la foi en Dieu peut accepter de faire l'impasse sur la facilité, de ne pas céder à la facilité, parce qu'il compte sur Dieu, que Dieu agira. Et là, Joseph pouvait créer un lien avec cette femme pour se voir plus tard libéré, retrouver sa famille. Mais c'était la facilité. Il a préféré obtenir les choses par la foi plutôt que par la facilité. Et la manipulation des gens, ça peut être aussi la facilité. On veut manipuler les gens, comme ça on obtient les choses rapidement, parce que attendre que Dieu agisse, ça peut prendre du temps. Attention à recourir souvent à la facilité. Parfois, il faut attendre. Et le crédit, bien-aimé, c'est aussi la facilité. Je ne dis pas que le crédit, c'est un péché, mais parfois, ça peut être la facilité. On ne veut pas attendre, on prend un crédit, vite fait. Non. Donc, attention, la facilité peut nous jouer des mauvais tours. Et là, Joseph a dit non. Je préfère m'attendre à Dieu. Je ne veux pas saisir la facilité. Et il a rejeté l'offre de cette femme-là. Et en rejetant l'offre de cette femme, il s'est retrouvé où ? En prison. Mais bien aimé, il y a encore un élément très important. Joseph pouvait accuser cette femme avant que lui ne se fasse accuser. Mais il ne l'a pas fait. On peut se poser la question, mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Parce que quand même, il a subi un harcèlement. Il pouvait, lui, chercher son intérêt. Mais non, c'est Christ. C'est le type de Christ. Alors, je n'ose pas dire c'est le plus grand pour ne pas être contredit par le Saint-Esprit. Mais Joseph est un grand type de Christ. Parce que là, Jésus, pendant qu'on est en train de le maltraiter, il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il n'a pas accusé. Et là, Joseph, alors que cette femme le harcèle, lui n'accuse pas. Il refuse sans accuser. Et quand bien même il est emprisonné, arrêté, nulle part on nous dit, on ne sait pas ce qui a été dit totalement, mais on ne nous dit pas qu'il s'est défendu pour dire qu'il n'a pas tort. Et que c'est la femme qui plutôt le harcelait. Une fois de plus, nous réalisons c'est quoi la foi. La foi, c'est compter sur Dieu. Probablement, Dieu lui a dit, tais-toi. On connaît ce verset qui dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Il y a des moments où le Saint-Esprit peut nous pousser à parler. Il y a des moments où il va nous dire, tais-toi. Laisse, je m'en occupe. Et c'était le cas. Joseph a préféré se taire alors qu'il pouvait se défendre parce qu'il comptait sur Dieu. Vous savez, la foi, quand Jésus dit ça peut transporter les montagnes, mais il y a des montagnes qui sont plus grandes que les montagnes physiques. Parce que dans des situations comme ça, on a vraiment envie de déclarer qu'on n'a pas tort, on n'est pas fautif, c'est l'autre qui est fautif, on a envie de... Qui aime la prison ? Personne. Mais Joseph a dû dire certainement que ça allait beaucoup plus faire du mal aux autres, ça allait casser tout un foyer. ça allait créer des problèmes aux gens. Il a vu l'intérêt aussi des autres. Donc il a dit, bon, Dieu s'occupera de moi. Ça, c'est très important. L'homme de foi dit toujours, Dieu s'occupera de moi. Il agira. C'est très important de penser à Dieu dans de nos situations difficiles. Pensons à Dieu. Et quand on a foi, on dit, Dieu s'occupera de moi. Ça produit en nous le comportement qu'il faut. Quand on dit, Dieu touchera son cœur, ça produit. Au lieu maintenant de réagir par la colère, tu te dis, bon, Dieu touchera son cœur, moi je réagis dans la paix. Mais je parle, je dis la vérité, mais je ne pêche pas dans ma façon d'agir. Oui, Trésor.
Oui, pasteur, ma question, c'est que je veux savoir, par rapport aux les difficultés que Joseph a subies, et si je essaie de le transmettre dans la vie chrétienne d'aujourd'hui, comment dire, nous les chrétiens d'aujourd'hui, parfois on a du mal à supporter les difficultés que Dieu permet dans nos vies. Est-ce que le fait de ne pas lâcher prise, c'est une manque de foi ou bien c'est une manque de soumission vis-à-vis de Dieu?
C'est plutôt un manque de foi en général. C'est un manque de foi. Et c'est pourquoi j'ai tenu à faire la différence avec Jonas. Jonas, ce n'était pas un manque de foi. Jonas, c'était un refus d'accepter la totale souveraineté de Dieu. Ça, c'est un autre niveau de lutte. Voilà. Mais c'est souvent aujourd'hui un manque de foi dû au fait qu'on n'a pas les bons modèles en face de nous. Vous savez, aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens, un pasteur, c'est qui? Un pasteur, c'est quelqu'un qui est salarié, qui a une vie comme tout le monde. Hein, qui a une vie comme tout le monde. Et voilà. Il n'y a pas vraiment d'exemple de foi devant nous. Et c'est pourquoi nous voulons lire la parole pour que on puise des modèles dans la parole. Donc, les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas habitués aux modèles bibliques comme exemple. Ils ont d'autres modèles. Ils devraient faire des gens de la Bible leur modèle. Si tu fais des gens de la Bible ton modèle, là, tu seras vraiment à l'image de Dieu. Ce n'est pas mauvais d'écouter des pasteurs et de les imiter, mais on doit les imiter que lorsque eux, ils imitent eux-mêmes les modèles qui sont dans la Bible, lorsque leur référence, c'est les gens de la Bible. Et souvent, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi nous voulons revenir dans cette lecture-là. J'avais dit au début de cette étude biblique sur les héros de la foi que c'est une étude biblique capitale. C'est capital parce que celui qui ne va pas se baser sur ces gens-là, il ne va pas se servir de ces gens-là comme modèle, n'aura pas une vraie vie chrétienne. Il aura une vie chrétienne tronquée. Et là, je crois que quand maintenant on fait de ces gens-là nos modèles, quand les problèmes nous arrivent, on fait toujours la comparaison. Je me souviens une fois, on avait fait une étude biblique de Job ici. Donc le défi qu'on avait lancé au milieu de nous, qui a souffert plus que Job? Donc on a attendu que quelqu'un nous donne cette réponse-là, on n'a pas trouvé qui a souffert plus que Job. Au milieu de nous, on avait lancé le défi parce que je suis pasteur. Je sais qu'à chaque fois que les gens viennent se plaindre auprès de moi, ils se plaignent comme si ils sont ceux-là qui souffrent le plus dans le monde. Alors, exprès, quand on a commencé l'étude biblique sur Job, je disais, bon, on lance un défi. Celui qui souffre, qui a dans sa vie plus que Job, qui vient nous voir. Bon, on a attendu jusqu'à la fin, on n'a pas tout valeur. Donc, la conséquence de ces défis, c'était quoi? Si tu n'as pas souffert comme Job, Job, lui, il a résisté, il est parti jusqu'au bout. Toi aussi, tu peux aller jusqu'au bout avec Dieu. Donc, nous lançons aussi encore le défi là, toujours sur Job, ça se maintient d'année en année. Celui qui a souffert plus que Job, qui vient nous voir, et on verra comment on va parler à Dieu s'il peut rajouter un chapitre dans la Bible. Mais pour le moment, on n'en a pas encore trouvé. Oui, Mylène.
Oui, par rapport au modèle. Mais quand, dans l'autre sens, on a justement des bons modèles. Après, qu'est-ce qui fait que on ne s'engage pas comme Dieu voudrait? C'est un problème de foi, là?
Non, c'est un problème d'accepter. Non, moi je pense que ceux qui se contentent d'avoir un bon modèle humain sans relier ça à la Bible finissent par trouver d'autres humains qui sont différents et ils font comme un équilibre. C'est ça le danger. On peut avoir un bon pasteur comme modèle, mais si on ne relie pas ça à la Bible, si à partir de lui, nous ne revenons pas pour avoir Joseph comme modèle, Paul comme modèle, Pierre comme modèle, on se contente que du pasteur ou bien de l'ancien, ben on pourra trouver d'autres serviteurs de Dieu qui sont différents, humains, à notre époque, et on va faire une sorte de moyenne, x1 plus x2 divisé par 2. Donc on fait la moitié, on dit bon, celui c'est bon, c'est vrai qu'il aime Dieu mais il exagère un peu, celui-là, il est un peu frileux mais il est équilibré. Bon, je fais la moyenne. Mais si on est touché par un modèle vivant, ce modèle vivant doit nous ramener toujours aux Écritures. Et là, nous allons trouver des modèles fixés par Dieu. Parce qu'eux, ils sont fixés. Le modèle vivant peut même un jour tomber. Mais le modèle de la Bible, il est fixé. Voilà. Il y a des boulons qui le relient à Dieu. Donc c'est fini. C'est des modèles qui ne vont jamais plus bouger. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, parfois il y a des modèles vivants qui sont bons, mais comme il y a d'autres vivants qui semblent faire le même travail, mais qui ne sont pas, qui le font d'une manière humaine, l'homme a tendance à équilibrer, à chercher une sorte de moyenne. Ou alors, les modèles vivants qui sont bons, parfois eux-mêmes finissent par chuter, et ça annule un peu la bonne partie qu'ils avaient autrefois. Et c'est ça qui fait que malgré le fait qu'on ait certains modèles vivants qui soient droits, ça ne produit quand même toujours pas la ressemblance à Christ, parce qu'il y a les gens ne relient pas ça au modèle de la Bible. Donc il faut relier ça au modèle de la Bible. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le modèle vivant bon ne suffit pas.
Oui, d'accord, mais des fois quand on relie directement à la Bible, c'est comme si des fois quand on lit... on a l'impression qu'ils sont à un autre niveau qu'on ne pourra jamais atteindre.
Ah ben c'est faux, puisque Jacques dit Élie était un homme hein, comme nous. Et d'ailleurs, on a des exemples de leur faiblesse qui nous attestent qu'ils étaient comme nous. Puisque quand on parle de David, quand on parle de Samson, beaucoup n'ont en tête que leur faiblesse. Hein. Mais quand on lit profondément, c'est là qu'on comprend que Samson, c'était un véritable homme de Dieu. Mais si tu ne lis pas sérieusement, tu ne vas pas savoir ça. Donc, cela, c'était des hommes comme nous. Justement, Hébreux 11 dit que s'ils ont été appréciés, ils ont été appréciés à cause de leur foi. Non pas à cause de ce qu'ils étaient eux, mais à cause de leur foi. Le but de la leçon, de l'enseignement, c'est de nous dire, ayons foi en Dieu. Voilà. Ayons foi en Dieu, parce que ces gens-là étaient comme nous. Mais ce qui a fait que Dieu leur a rendu un bon témoignage, c'était la foi. Voilà, nous clôturons là, nous continuerons sur Joseph le mardi prochain. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu nous augmentes la foi. Nous voulons la véritable foi qui produit des œuvres, qui a une suite, comme la personne qui investit en achetant un champ et qui sème du blé. Il se prépare à vendre ce blé-là. Il ne sème pas du blé en oubliant le blé. Lorsqu'il sème du blé, il s'engage dans un circuit commercial de vente, même s'il n'y a pas encore ce blé, il vient de semer. Mais il s'engage aussi dans un circuit commercial parce qu'il sait que le blé sortira. Et nous voulons cette foi-là qui nous amène à prendre des positions, à s'engager avec toi parce qu'on a compris. On a compris que tu avais un plan pour l'humanité. On a compris que tu as besoin de nous. On a compris que tu veux sauver tous les humains. On a compris ta puissance, ta gloire. Et on veut épouser tes desseins dans notre foi. On ne veut pas juste sécuriser notre éternité. Nous voulons épouser tes contrats, tes desseins à toi, Seigneur. Aide-nous à avoir cette foi qu'a eu Joseph de se taire au moment où il pouvait parler pour défendre sa cause. Mais il a compté sur toi, Seigneur. Aide-nous à dire avec simplicité ce que tu nous donnes comme révélation, ce que tu nous dis, ce que nous lisons, à le dire sans arrière-pensée et avoir foi que c'est toi qui toucheras les cœurs. Éloigne de nous toute volonté de manipulation, Seigneur. Que nous soyons simples comme Joseph, dire tout simplement et croire que toi, tu toucheras les cœurs. Aide-nous à compter sur toi. Et nous voyons, Seigneur, nous n'avons plus d'excuses. Maintenant que nous avons vu que chez Potiphar, tu as été avec Joseph. Et il y avait tellement ta gloire que la maison de Potiphar a été bénie. En prison, tu as été encore avec Joseph. À tel point qu'il a reçu la responsabilité de la prison. Seigneur, aide-nous. Augmente notre foi. Et que cette foi soit active au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Amen. Que Dieu nous bénisse.